Alors ce soir, nous allons continuer ce chemin de notre vie intérieure pour découvrir Dieu. Et nous allons laisser parler le Père Barthélemy, qui va nous parler donc de ce temps où le Messie est venu, de ce temps biblique, de la position de ceux qui étaient à la crèche, de la position des notables de ce temps, et puis de la position de Marie et Joseph.
Ce soir, ce n'est pas avec la louange que nous voulons entrer dans ce temps de prière, mais par une démarche plus silencieuse, plus méditative, par laquelle nous voulons demander au Seigneur de nous accorder sa paix. Nous quittons le bruit de nos existences pour chercher le silence de Dieu, pour rechercher cette paix qui est promise par le Messie. Recherche la paix et poursuis-la, nous dit le psaume. Nous voulons ralentir le rythme de nos vies, ralentir le rythme de nos pensées, ralentir le rythme de nos émotions, pour laisser Dieu s'insinuer en nous. Dieu nous parle dans le silence. Dieu aspire à ce que nous entrions dans ce silence. Le silence du septième jour, lorsque Dieu contempla sa création, et qu'il vit qu'elle était très bonne. Cherchons à travers ces quelques minutes qui nous sont données, tout ce que nous devons laisser déposer à la porte de cette église pour que Dieu puisse se donner à nous, pour que nous puissions nous accorder, pour être à l'unisson de ce chant divin, de ce chant céleste, à l'unisson du Verbe. Il nous faut nous demander la grâce de ne pas chercher à combler le silence, à l'accueillir comme un don que Dieu nous fait, un don qui nous donne la paix, un silence qui n'est pas du vide, mais le silence de ce moment où nos mots ne peuvent dire ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Ce surplein du silence, lorsqu'il est le silence de celui qui aime. Du Père Jacques Philippe. Pour permettre à la grâce de Dieu d'agir en nous et de produire en nous tous ses fruits, il faut que nous nous efforcions d'acquérir et de conserver la paix intérieure, la paix de notre cœur. Considérons la surface d'un lac au-dessus de laquelle brille le soleil. Si la surface de ce lac est paisible et tranquille, le soleil se reflétera presque parfaitement dans ce lac, et d'autant plus parfaitement que ce lac sera plus paisible. Si au contraire la surface de l'eau est agitée, mouvementée, l'image du soleil ne pourra pas s'y réfléchir. Il en est un peu de même en ce qui concerne notre âme vis-à-vis de Dieu. Plus notre âme est paisible et tranquille, plus Dieu s'y reflète, plus son image s'imprime en nous, plus sa grâce agit à travers nous. Au contraire, si notre âme est agitée et troublée, la grâce de Dieu y agira beaucoup plus difficilement. Tout le bien que nous pouvons faire est un reflet de ce bien essentiel qu'est Dieu. Plus notre âme est paisible, égale, abandonnée, plus ce bien se communique à nous et aux autres à travers nous. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple lorsqu'il est dans la paix. Dieu est le Dieu de la paix. Il ne parle et n'opère que dans la paix, non pas dans le trouble et l'agitation. Souvenons-nous de l'expérience du prophète Élie à l'Horeb. Dieu n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Souvent nous nous agitons et nous nous inquiétons en voulant tout résoudre par nous-mêmes, alors qu'il serait bien plus efficace de rester paisible sous le regard de Dieu et de le laisser lui agir et œuvrer en nous, avec sa sagesse, avec sa puissance, qui sont infiniment supérieures aux nôtres.
Frères et sœurs, j'ai voulu commencer ce temps de prière par un temps de louange, non pas que la louange soit pas bien, mais parce que je trouve ça bien de temps en temps de changer nos habitudes, mais par ces considérations bibliques sur la paix, en préparant ce temps de l'Avent, en préparant la fête de Noël, j'ai voulu essayer de reprendre quelles étaient toutes les idées messianiques, les messages qui ont été donnés par les prophètes annonçant la venue du Messie. Et un des dons qui était particulièrement mis en lumière, à la fois par Isaïe, par Ézéchiel, par Jérémie, c'est que le Messie est celui qui nous apporterait la paix. Et je trouve que c'est une façon tellement simple d'attendre, de chercher, de désirer. Et à ce moment-là, la venue du Messie, c'est de dire « Seigneur, je désire la paix à la fois en moi, la paix autour de moi, la paix pour notre monde, la paix pour ma famille, la paix pour que je trouve un équilibre et une harmonie plus belle et plus profonde. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à relire dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, tout ce qui nous est dit sur la paix. J'ai trouvé énormément de versets. Alors, j'en ai partagé quelques-uns, mais j'ai une liste bien plus longue. Pour ceux qui la voudraient, vous pouvez me la demander. Et je trouve que c'était une très belle façon. Grande est la paix pour qui aime ta loi. Et puis, j'ai fini tout à l'heure par ce très court verset du livre d'Ézéchiel, où il dit que le Seigneur nous apportera une alliance de paix et que à ce moment-là, sa demeure sera en nous. Et ça, c'est le mystère de Noël. Le moment où Dieu établit sa demeure en nous. Et c'est lié avec cette idée du don de la paix. Alors pour entrer plus avant dans l'avant, sans faire de jeu de mots, j'aimerais que nous arrêtions un petit peu sur la crèche. Vous savez, c'est une vieille tradition qui date de Saint François d'Assise. Et peut-être, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais dans la crèche de Saint François d'Assise, elle se trouvait au pied de l'autel, comme nous avons ici cette crèche au pied de l'autel, mais il y a un santon qui n'existait pas. Et que nous avons généralement dans nos crèches. Ce santon qui n'existait pas, c'était l'enfant Jésus lui-même. Parce que pour Saint François d'Assise, c'est lorsque le prêtre célèbre la messe, vous rappelez-vous que Saint François n'était pas prêtre, il a refusé d'être prêtre. Mais c'est lorsque le prêtre célébrait la messe qu'à ce moment-là, la naissance se réalisait pour aujourd'hui. Et donc du coup, le santon, c'est l'Eucharistie. Et tout à l'heure, Jésus n'est pas, on n'a pas encore mis le petit santon qu'on mettra la nuit de Noël, mais nous pourrons exposer le Saint-Sacrement. Et je trouve que c'est une intuition spirituelle qui est très forte. Et puis après, avec, j'allais dire, le folklore, cette tradition a perduré jusqu'à nos jours, avec notamment nos crèches provençales. Et avec les crèches provençales, c'est tout notre quotidien qui était mis en scène, le boulanger, le ravi, la poissonnière, le maire du village, que sais-je. Et là aussi, derrière, il y a une intuition spirituelle qui est très belle. C'est de nous interroger en disant, si Jésus venait maintenant à Boulogne-Billancourt, qu'il arrivait ici, là, que Joseph, alors ce serait peut-être pas avec un âne, ce serait peut-être une Clio, et qu'il venait pour le recensement, comment ça se passerait s'il était un peu perdu, paumé, comment nous lui ouvrions nos portes? Et ces crèches provençales qui actualisent à travers tous ces petits santons qui nous rappellent la diversité de la vie de l'époque, la diversité de nos vies. En fait, c'est une question qui nous est posée. Et si Jésus revenait? Et si Jésus venait? Comment nous trouverait-il? Et il est bon, en ce temps de veille, justement, de regarder ces différents personnages de la crèche, ces personnages que nous sommes. Parce que pour moi, il y a un grand drame du temps de l'Avent. Le drame qui est celui du cœur de Dieu, qui s'est vécu au moment de la gestation de Jésus dans le sein de Marie. C'est le drame, il est constitué de ce paradoxe que le peuple de l'attente, le peuple choisi, le peuple appelé, le peuple accompagné, le peuple éduqué par Dieu pour cette unique mission, attendre le Messie. Le peuple d'Israël n'avait pas d'autre mission que celle-là. Comment se fait-il qu'il ait échoué à accueillir son Sauveur? Comment se fait-il que le Messie ait été si mal accueilli? Alors bien sûr, lorsqu'on voit Noël, on garde uniquement le côté attendrissant de cet enfant qui est le Fils de Dieu et toute la tendresse de ce Dieu enfant que cela suscite, mais on oublie une question fondamentale. Cette question fondamentale, c'est comment se fait-il que le peuple choisi ne l'ait pas reçu? Alors qu'il était, fait pour ça. Il a été choisi, mis à part. Il a été éduqué par les prophètes. Il savait, il avait conscience qu'il devait attendre le Messie. Comment se fait-il que la rencontre ne se soit pas faite? Il est si beau et si bon de se sentir attendu. On en fait tous l'expérience lorsque on arrive à un dîner, que on sent que tout a été préparé, la table a été prête, tout est fait pour qu'on se sente bien. C'est bon de ressentir ça. C'est bon aussi d'attendre, parce que lorsqu'on attend, cette attente, lorsqu'elle est habitée justement par l'ardeur de l'amour, c'est pas une attente douloureuse, c'est une attente envieuse, c'est une attente habitée déjà par celui qui va venir. Mais ce qui est terrible, c'est lorsqu'on n'est pas attendu. Et alors là, j'ai oublié ma Bible, j'ai demandé à quelqu'un de me la porter parce que j'ai fait une faute grave. La Bible est juste là. Voilà. Et l'évangile de Jean commence dans le prologue par justement le récit de ce drame du temps de l'Avent, de ce paradoxe que ceux qui devaient attendre n'ont pas vu celui qui venait. Et c'est dit à deux moments. Saint Jean nous dit ceci: « En lui était la vie était la lumière des hommes, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Et puis un petit peu plus loin, on nous dit ceci du Fils de Dieu: « Il était dans le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens. » Et les siens ne l'ont pas accueilli. Vous voyez, le temps de l'Avent, c'est aussi ça. C'est aussi ce paradoxe de ne pas savoir accueillir le Messie. Et c'est pour ça que j'avais envie de reprendre avec vous justement ces différents personnages de la crèche. Alors, je ne vais pas faire toute la crèche provençale parce qu'on en aurait pour un certain temps. Mais je vous invite à le faire. En essayant de vous demander justement comment se fait-il que ce rendez-vous ne se soit pas passé. Qu'il n'y ait pas eu cette incroyable rencontre entre un peuple et son Dieu. Pourquoi il y a eu si peu de monde qui ont su découvrir que le Christ était là? Alors, j'ai retenu cinq personnages principaux qui sont peut-être passés un petit peu à côté de l'avenue du Messie. Je pense tout d'abord, moi, aux scribes et aux pharisiens. Pourquoi? Parce que, et aux prêtres de l'époque. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui étaient les mieux lotis pour attendre le Messie, parce que eux, ils avaient accès aux Écritures, ils étaient chargés d'enseigner le peuple de Dieu. Et lorsqu'on lit un tout petit peu dans l'évangile de Matthieu le récit des mages, on se rend compte qu'ils savaient non seulement que le Christ allait venir, mais ils savaient où il allait venir et quand il allait venir. Et on se demande, mais puisqu'ils étaient armés d'autant de connaissances, comment se fait-il qu'aucun d'eux n'ait fait les 8 kilomètres qui les séparaient de Jérusalem à Bethléem? Et la connaissance, si elle ne va pas jusqu'au cœur, est une connaissance stérile. Et je pense que les scribes et les pharisiens nous mettent, en question sur ce point-là. Qu'est-ce que je fais de cette connaissance? Est-ce que la connaissance que j'ai de Jésus-Christ est une connaissance qui va jusqu'au cœur? Mais il n'y a pas que les scribes et les pharisiens, il y a aussi le roi Hérode. Hérode qui a été alerté justement à la fois par la venue des mages, et par les scribes et les pharisiens, il savait que le Messie venait de naître. Et lui, Hérode, ce qui lui a empêché de rencontrer le Christ, n'est pas une connaissance qui n'allait pas jusqu'au cœur, mais c'est la peur. En fait, Hérode avait peur. Parce qu'en fait, le roi des Juifs, c'était lui, hein, que vous n'avez pas remarqué. Et donc, je suis le roi des Juifs, on dit, voici le roi des Juifs. C'est moi le roi des Juifs là. Donc le roi qui va venir, pas de place pour lui. Il avait peur qu'on lui prenne quelque chose. Hérode, il avait réussi à sauvegarder un semblant de royauté face aux Romains, et du coup il était attaché à sa royauté, attaché à ce qu'il a conquis. Il ne voulait pas qu'on lui prenne ce qu'il avait si durement acquis. Il ne voulait pas que Jésus vienne bouleverser son équilibre. Il voulait pas que Jésus vienne lui prendre quelque chose. Et là encore, on peut se poser la question, si pour chacun d'entre nous, il n'y a pas un moment où on a peur que Dieu nous prenne. Comment se fait-il que nous ayons parfois cette petite voix lancinante de se dire, si je suis le Seigneur, à un moment ou à un autre, ça va passer par le mystère de la croix, et à un moment ou à un autre, je vais être obligé de perdre quelque chose. J'ai pas envie de perdre un enfant, j'ai pas envie de perdre mon mari, j'ai pas envie d'avoir un cancer. Donc Jésus, s'il te plaît, si tu peux rester un tout petit peu à distance. J'ai peur de toi. Ça, c'est Hérode. Est-ce que nos peurs de Dieu, nos peurs de ce bouleversement, ou alors on est, c'est la peur de perdre son péché mignon. Il y a certains péchés, on n'est pas du tout prêt à les lâcher. Hein. On sait qu'on est comme ça et on limite on les chérit, on les entretient. On dit, oh, c'est mon caractère. Voilà. On n'est pas du tout prêt à lâcher certaines choses. On n'est pas prêt à ce que Jésus vienne bouleverser un petit peu notre équilibre. Ça, c'est Hérode. Hérode n'a pas pu rencontrer le Christ parce qu'en fait, il n'a pas voulu perdre. Il n'a pas accepté de rencontrer le Christ parce qu'il a eu peur. Puis, il y a d'autres personnages, les juifs pieux, qui, eux, attendaient le Messie. Et leurs prières même s'élevaient nuit et jour. Donc ils étaient pas comme Hérode qui avait peur, ils n'étaient pas non plus comme les scribes et les pharisiens qui avaient une connaissance mais pas un véritable désir qui tout rejoignait le cœur. Ils avaient envie que le Christ vienne, mais ils se faisaient une idée très très précise de comment le Christ devait venir. Il devait venir comme un libérateur. Et Jésus n'est pas venu comme ils attendaient qu'il vienne, et du coup ils l'ont pas vu. Ça me fait un tout petit peu l'effet de, vous savez, quand vous attendez quelqu'un à l'aéroport. Alors vous êtes là, complètement focalisé sur la porte à battant là qui s'ouvre et qui se ferme, et vous attendez que la personne arrive. La seule chose, c'est qu'en fait, il y a une deuxième porte que vous n'avez pas vue, il vient par derrière, il fait « Bart, je suis là. Ah ouais, je t'ai pas vu venir. » Ben, en fait, la difficulté, c'est que parfois, nous attendons des choses de Jésus. Nous attendons qu'il nous donne telle ou telle chose, nous attendons qu'il vienne nous guérir de tel péché ou de telle blessure, nous attendons qu'il vienne exaucer telle demande. Et donc, du coup, nos attentes nous orientent, et on veut que Jésus rentre par la porte là où on l'attend. C'est-à-dire, je suis en face de la porte et je veux que tu rentres par cette porte. Et on va pas le voir venir. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas comme on veut qu'il vienne. Et là, il y a un combat de la foi qui est de dire, ce que nous attendons risque de nous empêcher de voir ce que Dieu nous donne. La façon dont il vient à nous. Et il me faut croire que ce que Dieu me donne est toujours meilleur que ce que j'en attends. Ce que Dieu me donne est toujours meilleur que ce que je peux attendre. Et nous pouvons attendre, mais mal attendre, et du coup ne pas accueillir le Christ. Ça, c'est la grande majorité des juifs pieux de l'époque n'ont pas su reconnaître Jésus parce qu'ils ne venaient pas comme ils attendaient. Et puis, dans nos crèches, il y a souvent l'hôtelière qui finalement arrive quand même à la crèche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais l'hôtelière, elle vient au fond exprimer le fait que parfois il y a pas de place, hein, on n'est pas prêt, c'est le manque de compassion. Moi je trouve ça assez dur de se dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une femme enceinte, un homme avec une femme enceinte et qu'on n'a pas su lui donner de la place. Ça montre une incapacité à changer nos plans. On va nous demander un service, on va nous demander, parce que le Christ va venir à nous à Noël, hein, mais peut-être qu'il viendra à vous à travers vos frères. Qui vont vous dire toc 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 le 24 alors que vous êtes en train de préparer plein de trucs, j'ai besoin de toi, Père Barthélemy, pour m'accompagner à l'aéroport alors que moi je prépare la messe du 24 au soir. Je sais pas. Et l'hôtelière, en réalité, c'est fou parce que c'est la personne qui a été la plus proche d'accueillir le Christ. Et en plus, elle a rien fait pour ça. C'est Jésus qui est venu à travers Marie et Joseph jusque chez elle. Elle avait juste à ouvrir la porte. Elle a rien demandé, elle pouvait rencontrer Jésus. Et être la première à le voir. Mais elle n'avait pas de temps. C'est dommage, hein, on n'a pas de temps. Et puis on va nous demander un service au moment où, mais non, moi j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, elle est passée à ça. Hein. Elle est passée à ça, la rencontre du Christ, la pauvre. Et cette incapacité à compatir, cette incapacité à changer un petit peu l'ordre de nos vies pour laisser un peu de place à Dieu, va lui faire manquer cette rencontre. Et puis il y a un cinquième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est la foule. La foule indifférente, en fait, la foule qui n'attend plus ou qui n'attend pas. Parfois, nous n'attendons plus parce que nous avons été déçus, donc du coup, en fait, nous ne sommes pas prêts d'accueillir le Christ, en fait, parce que nous ne l'attendons plus. Nous vivons comme si... moi, je connais des croyants qui sont des athées sur le plan pratique. C'est-à-dire qu'ils viennent à la messe le dimanche, mais en réalité, ils n'attendent plus. Ils n'espèrent plus. Ils ne croient plus. Et ça, c'est terrible, c'est parce que souvent ça naît d'une déception, d'une blessure, d'une attente justement qui n'est pas venue, et donc du coup l'impression que Dieu nous a abandonnés en disant mais écoute, je vais faire comme si j'avais pas de papa, parce qu'au fond j'ai pas envie de souffrir de ne pas recevoir de mon papa ce que j'attends de lui. Et cette indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est le cœur qui est froid, c'est le cœur qui justement n'aime plus. J'avais entendu, on m'a rapporté plutôt la parole d'un prêtre lors de funérailles que je trouve très belle, et ce prêtre disait, on ne perd quelqu'un que lorsque l'on n'aime plus, à propos de quelqu'un qui venait de partir, une personne qui venait d'aller au ciel. On ne perd quelqu'un que lorsqu'on ne l'aime plus, et au fond la foule indifférente, c'est celle qui n'aime plus, et donc du coup elle a perdu le lien avec son Dieu, et elle est seule. Et parfois peut-être que l'espérance est morte en nous. Et à travers ces cinq personnages, frères et sœurs, que j'ai cherché un petit peu à esquisser, voir quels sont leurs blocages, comment se fait-il qu'ils n'aient pas rencontré le Christ, parce que cette connaissance, elle ne va pas jusqu'à toucher notre cœur, parce que nous avons peur de Dieu, parce que nous attendons quelque chose et nous ne le voyons pas venir de façon différente, parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous manquons de compassion, nous n'accueillons pas Dieu qui vient à travers nos frères, parce que peut-être parfois nous avons été déçus. Nous pouvons risquer en réalité de passer à côté de cet avant. Et je me dis, si le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple élu a failli à sa mission, l'épouse du Christ, qui est l'Église, peut aussi faillir à sa mission. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on le voit à tant et tant de moments. Et donc du coup, pendant ce temps de l'Avent, servons-nous de l'expérience de nos frères qui ont failli, parce que c'est notre expérience, pour que justement ce temps de l'Avent soit un vrai temps de l'Avent. Et parmi ces cinq rencontres ratées, nous, quels sont les obstacles qui nous empêchent de rencontrer le Christ? Est-ce que c'est parce que nous n'attendons plus rien de lui? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas le temps de lui en donner? Est-ce que c'est parce que nous attendons trop de lui? Et donc du coup, nous ne le voyons pas venir. Est-ce que nous avons peur? Et je voudrais vous proposer maintenant une petite démarche. Alors il y a des frères qui sont là et je vois d'ailleurs que les confessionnaux sont ouverts. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rentrer et vous n'êtes même pas obligé d'attendre. Et il n'y a pas la quête au confessionnal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez, si vous le désirez, aller vous confesser. Mais j'aimerais qu'en fait, ensemble, collectivement, on puisse se mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Autrement, se mettre debout ou rester assis comme vous le désirez. Et puis nous allons demander pardon au Seigneur pour nos avants ratés, pour nos rencontres avec lui qui n'ont pas pu avoir lieu alors que lui nous attendait, pour les moments où il aurait tellement aimé être reçu, accueilli, attendu, désiré, et nous sommes restés à l'extérieur de nous-mêmes. Et que cette démarche un peu, j'allais dire, pénitentielle au fond, nous prépare à ce que Noël soit une vraie rencontre. C'est ça que nous demander. Ce qu'il y a de terrible dans la fête de Noël, c'est qu'il y a tellement de choses qui nous situent à l'extérieur de nous-mêmes et qui sont un obstacle à ce que cette fête, elle soit vraiment vécue comme ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une rencontre avec le Christ qui vient à nous. Le Christ vient, mais nous ne l'attendons pas ou ne l'attendons plus. Alors, pour préparer cette fête de Noël, reconnaissons en fait que nous sommes comme tous les santons de la crèche, nous venons parfois un peu trop tard alors que lui vient. Seigneur Jésus, je me présente devant toi. Je te présente ce temps de l'Avent que je désire vivre davantage comme un moment où mon cœur sera brûlant parce qu'il te désire, parce qu'il t'attend. Parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est d'apprêter une table, un banquet, pour que nous puissions nous rencontrer, pour que tu puisses t'installer et demeurer dans mon âme. Seigneur, je veux reconnaître ce soir tout ce qui m'empêche de cheminer vers cette rencontre, tout ce qui me détourne de ce si bel objectif, de ce si beau moment, de cette si belle rencontre. Seigneur, je veux croire que tu me désires, que tu désires mon âme, toi qui as pourvu tout ce chemin du ciel vers la terre, qui n'est pas d'abord une distance géographique ou physique, mais qui est d'abord une distance spirituelle. Tu t'es abaissé pour que nous puissions mieux te rencontrer. Mais il y a un pas que tu ne peux pas faire à notre place. C'est celui de t'ouvrir notre porte. Celui de te faire rentrer dans notre âme. Et de te dire, tu es chez toi, en moi. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où je ne te reconnais pas dans le cœur de mes frères. Qui viennent frapper à ma porte pour me demander un service, pour me demander d'être disponible. Je demande pardon lorsque j'ai peur de toi. Je
te demande pardon lorsque je t'attends mal, parce que je te donne des ordres, parce que j'aimerais que tu viennes par une porte plus que par une autre. Parce que je ne suis pas attentif à regarder tout autour de moi. Parce que je ne suis pas reconnaissant de la façon dont tu prends soin de moi et de ce que tu me donnes. Tu me chéris, tu me combles maintenant. Je te demande pardon, Seigneur, parfois lorsque je manque d'espérance et que je te demande plus parce que j'attends plus. Je te demande pardon enfin, Seigneur, lorsque je ne fais rien de toute cette connaissance que j'ai, tellement de chance de te connaître, de connaître ton évangile, de connaître ces textes sacrés, de connaître que tu existes, de savoir que j'ai un père. Je te demande pardon lorsque cette connaissance, elle n'est que culturelle, elle n'est que traditionnelle, elle n'est que familiale. Mais elle ne descend pas jusqu'à mon cœur. Elle ne me met pas en mouvement. Elle ne me fait pas marcher, elle ne me fait pas bondir vers toi. Seigneur, viens ranimer dans mon cœur la flamme du désir. Comme deux jeunes fiancés qui se découvrent l'un à l'autre. Qui trouvent si bon d'aimer et d'être aimé. Nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Alors, vous allez me dire,